un podcast France Culture.
Platon et Aristote, c'est en compagnie de Sénèque que nous allons passer l'heure qui vient, dernier épisode de notre série sur l'économie selon les philosophes de l'Antiquité, car le penseur et homme d'État romain propose lui aussi une réflexion sur l'argent. En digne héritier des stoïciens, il enseigne comment se détacher des biens matériels et des tentations de ce monde comme le pouvoir ou les honneurs. Bienvenue sur France Culture, c'est l'heure d'entendre l'écho des palais de Rome. Parler de l'argent selon Sénèque, qui possédait lui-même une immense fortune, nous avons le plaisir d'accueillir Juliette Dross, maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Université et autrice du Philosophe dans la cité, Sénèque et l'Otium philosophique, publié aux éditions Brépol, également traductrice de La tranquillité de l'âme de Sénèque. Également avec nous en studio, et je m'en réjouis, Sandrine Alexandre, philosophe, chercheuse en philosophie, membre du laboratoire IREF de l'Université Paris-Nanterre, autrice de cet ouvrage Philosophie du tir à l'arc, essai sur la conception stoïcienne de la valeur, paru cette année aux éditions de l'ENS. Une émission préparée avec Aliette Ovine, Diane de Vancel et Assa Bourin, Laurence Genepin, Anna Fulpin et Margot Bolotny. Juliette Ross et Sandrine Alexandre, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, qui est Sénèque ? C'est un philosophe romain né à Cordoue, sous le règne d'Auguste, en l'an 4 avant Jésus-Christ. Et au cours de sa vie, il a connu pas moins de 5 empereurs. Le premier siècle de notre ère, c'est un siècle particulièrement mouvementé, Juliette Dross ?
Disons que c'est un siècle qui a connu effectivement plusieurs empereurs dont les règnes n'ont pas toujours été caractérisés par une grande sérénité. Il y a d'abord eu Auguste, ensuite Tibère, Caligula, un règne très bref de 4 ans, puis Claude et enfin Néron qui a été l'élève de Sénèque, son disciple, puisque Sénèque a été son précepteur. Et ensuite, lorsque Néron est devenu empereur, Sénèque est devenu son conseiller, son éminence grise.
Oui, c'est ça qu'il faut dire d'emblée sur Sénèque. Hein. C'est à la fois un philosophe et un homme politique, hein, Juliette Dross.
Oui, il était vraiment au cœur de la vie de la cité. Il était déjà très proche, il était à la cour de Caligula. Il a eu une traversée du désert pendant le règne de Claude, puisqu'il a été exilé pendant 8 ans. Mais il est revenu pour devenir le précepteur de Néron et il est devenu ensuite son conseiller politique. Donc c'était un homme qui était au cœur des affaires publiques et qui a constamment réfléchi à cette question justement du rôle du philosophe dans la cité.
Et alors le nom de Sénèque est indissociable bien sûr du stoïcisme. Le stoïcisme à l'origine c'est une philosophie grecque qui est apparue au 4e siècle avant Jésus-Christ, Sandrine Alexandre.
Oui tout à fait, un petit peu plus tard au 3e siècle avec Zénon de Citium et puis un certain nombre de scolars qui se sont succédés. On a eu notamment Chrysippe qui a refondé presque le stoïcisme. Et puis le stoïcisme est passé petit à petit à Rome, notamment grâce à des auteurs comme Panétius. Et puis Sénèque a eu comme maître notamment des philosophes qui ont été considérés comme des penseurs stoïciens.
Et d'où vient ce terme de stoïcisme ?
Alors stoïque, ça avait référence au portique peint sous lequel les stoïciens avaient coutume, paraît-il, d'enseigner.
Et alors, vous l'avez dit, c'est une philosophie qui a été importée dans le monde romain par Panétius, mais aussi Cicéron qui a joué un rôle important dans cette arrivée de la philosophie stoïcienne.
Oui, tout à fait. Donc Cicéron était vraiment un passeur, notamment pour la philosophie, même de façon générale, dans la mesure où son ambition, c'est de traduire la philosophie grecque en latin. Et il invente véritablement une langue latine pour un certain nombre de concepts. Donc oui, c'est un passeur extrêmement important, non seulement pour le stoïcisme, mais aussi pour d'autres pensées, l'épicurisme ou qu'on pourrait appeler le scepticisme.
Mais quand on pense aux stoïciens, on pense effectivement plus souvent à Sénèque, à Épictète, à Marc Aurèle, plutôt qu'aux stoïciens grecs. Pourquoi ? Parce que tout simplement, leurs œuvres ont été mieux conservées, Sandrine Alexandre ?
Oui, donc il y a cette raison-là qui est quand même une raison manifeste, puisque les premiers stoïciens, nous n'avons que des fragments, donc qui sont accessibles. Il y a de très très bonnes éditions récentes, mais ça reste des fragments, et souvent des fragments tardifs, alors qu'effectivement, pour Épictète, on a les notes directes de son disciple Arien. Pour Sénèque, on a une œuvre très très conséquente. Et puis, un certain nombre d'aménagements techniques ont fait que c'est une philosophie peut-être plus facile à lire et à comprendre.
Le stoïcisme qui va connaître un grand succès dans le monde romain, mais c'était peut-être pas gagné au départ, Juliette Dross.
Alors effectivement, c'est une philosophie qui s'est beaucoup répandue dans le monde romain et qui était beaucoup la philosophie. Alors il y a l'épicurisme également, hein, mais le stoïcisme a eu, c'est vrai, plus de succès auprès de l'élite romaine. Et on dit beaucoup que à l'époque, au 1er siècle après Jésus-Christ, donc à l'époque de Sénèque, le Sénat était un repère de stoïciens. Il y avait beaucoup de d'hommes politiques qui étaient stoïciens, sachant que c'était voilà, la philosophie c'était pas un métier, c'était plus une culture que l'on avait et qui permettait de mieux exercer ses fonctions publiques.
Et la spécificité du stoïcisme, c'est que c'est à la fois une philosophie et une règle de vie, Juliette Dross.
Oui, c'est-à-dire que c'est comme un certain nombre de philosophies anciennes, c'est à la fois une théorie et une pratique, avec l'idée toujours d'ancrer la pratique philosophique dans un discours philosophique, dans une théorie dans laquelle elle s'enracine.
Donc le stoïcisme connaît un grand succès dans les hautes sphères de la société, chez les sénateurs romains, et cela alors même que lorsqu'on pense au règne de Caligula, notamment, on pense plutôt à la décadence.
Sachez que j'existe depuis le matin du monde et que je ne m'éteindrai qu'à la chute de la dernière étoile. Bien que j'ai revêtu la forme de Gaius Caligula, je suis tous les hommes sans en être aucun. Aussi bien suis-je de ce fait un dieu. Longinus, magicien de mes finances, qui sont les hommes les plus riches d'Europe? Les macros? Qui sont les putains les plus lascives d'Europe? Les femmes des sénateurs. Donc, nous tenons un bordel impérial et voici équilibré le budget de l'État. Pour 5 petites pièces d'or, bienvenue au bordel impérial. Choisissez parmi les plus belles chairs de l'Empire.
Il fait des prostituées de nos femmes et de nos filles. Il humilie le Sénat et se concilie l'armée.
Mais c'est pour cela que le peuple l'aime.
Voilà Caligula qui va donc régner de 37 à 41, à l'inverse de ce qui transparaît dans ce film de 1979, Caligula, réalisé par Tinto Brass. Ce que propose le stoïcisme, Sandrine Alexandre, c'est au contraire de se détacher des biens de ce monde, de poser un regard d'indifférence sur la richesse.
Alors oui, c'est vrai, donc se détacher, même quand on est riche, donc à la limite, être riche ou être pauvre, c'est théoriquement en tout cas indifférent pour l'accès à la sagesse. Et Sénèque ira même jusqu'à dire que être riche, c'est quand même une condition un peu plus difficile encore pour être stoïcien, pour aller vers la sagesse.
Il faut être indifférent vis-à-vis de l'argent, Juliette Dross, parce que de toute façon, la richesse et la pauvreté sont soumis aux aléas de la fortune, c'est-à-dire du hasard.
Oui, exactement. L'idée que développe Sénèque, hein, et qui est vraiment dans la droite ligne stoïcienne, c'est que, comme le disait Sandrine, hein, l'argent n'a pas d'importance par rapport à la sagesse. On peut être riche, on peut être pauvre, on sera sage. Le sage peut être tout aussi sage qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Après, c'est vrai que le discours de Sénèque sur cette question peut parfois surprendre. C'est-à-dire qu'il dit parfois l'argent, c'est la source de tous les maux. Pourquoi ? Parce que l'idée qu'il développe, par exemple, dans un de ses traités qui s'appelle La tranquillité de l'âme, c'est que quand on a de l'argent, on a peur de le perdre et donc on vit constamment dans cette crainte de ne plus être riche. Alors que finalement, quand on n'a pas d'argent, il dit voilà, le fait de perdre est plus douloureux que le fait de ne pas posséder. Mais à côté de ça, il insiste également, notamment dans un autre traité qui s'appelle La vie heureuse, sur le fait que l'argent est totalement indifférent par rapport au bonheur et que même d'un point de vue stoïcien, entre la richesse et la pauvreté, le sage aura plutôt tendance à préférer la richesse, sachant qu'encore une fois, ça n'a pas d'incidence sur sa sagesse, mais parce que dans la richesse, il peut davantage développer certaines vertus, notamment la libéralité, la générosité, le sens de la tempérance, etc.
Oui, la richesse, c'est ce que Sénèque appelle un préférable, Sandrine Alexandre, dans une distinction qu'il établit entre plusieurs degrés de valeur. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ?
Oui, alors ça ferait référence effectivement à la distinction et aux divisions que faisaient les anciens stoïciens, les premiers stoïciens, entre des biens, des maux et des indifférents. Et au sein de cette catégorie de choses indifférentes, qui sont moralement indifférentes, on distinguait des indifférents absolus, peu importe, avoir un nombre pair ou impair de cheveux sur la tête, ou des indifférents préférables, par exemple la richesse, la vie, le plaisir, et des indifférents dépréférables ou non préférables, comme la mort, la douleur et la pauvreté. Et j'ai l'impression que Sénèque, et donc ça rejoint ce que disait Juliette à l'instant, Sénèque va peut-être parfois inverser la valence de ses préférables et dépréférables, dans la mesure où il nous dit parfois qu'il est quand même plus facile, quand on est pauvre, d'être heureux, puisqu'on va peut-être moins craindre de perdre sa richesse. Mais malgré tout, on a effectivement l'autre côté où, quand on est pauvre, on ne peut pas user de cette vertu de libéralité. Donc effectivement, la position de Sénèque est ambivalente. Hein. Elle fluctue au cours des traités. Ce n'est pas du tout une objection contre sa pensée ou contre sa cohérence, mais elle est faite de tensions. C'est ça qui est intéressant.
Et selon Sénèque, c'est à l'esprit de réaliser ce travail qui consiste à reconnaître la juste valeur des choses et à distinguer justement ce qui est préférable et ce qui est non préférable, Sandrine Alexandre.
Ça, c'est vraiment plutôt une préoccupation qu'avaient les premiers stoïciens. Donc, avec le stoïcisme romain et impérial dont vous parliez au tout début, cette distinction va s'effacer. Et c'est pour ça que l'ambivalence finalement de Sénèque n'est pas si grave que ça et surtout pas contradictoire avec le stoïcisme, puisqu'ils vont plutôt insister sur des choses qui dépendent de nous, avec Épictète, donc légèrement plus tard, et des choses qui ne dépendent pas de nous, mais qu'on trouve quand même déjà chez Sénèque, hein, même si on prend la toute première lettre des lettres à Lucilius, il nous dit le temps est nôtre, c'est le seul bien qui soit nôtre, et le reste des choses sont des choses qui sont autres. Hein, donc cette distinction entre bonum nostrum et le fait qu'on est au contraire un bonum alienum.
Mais en tout cas, en disciplinant son jugement, l'objectif, c'est de réussir à se libérer des passions, peut-être nous rappeler quelles sont les passions selon les stoïciens, Juliette Dross.
Oui, alors c'est l'un des enjeux hein, dans le stoïcisme. Alors là encore, la doctrine stoïcienne des passions a quand même vraiment évolué entre l'ancien stoïcisme et le stoïcisme impérial, le stoïcisme de Sénèque. Mais la particularité du stoïcisme par rapport à d'autres courants de pensée, c'est que il considère que les passions sont des maladies de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est rationnelle et que la passion, c'est une maladie de l'âme. Donc il faut essayer de se détacher des passions pour accéder au bonheur et donc à la sagesse. Puisque la sagesse et le bonheur sont identiques. Donc il y a une vraie ascèse des passions chez Sénèque, et notamment le travail sur la peur. Alors le grand sujet qu'on trouve notamment concernant dans les lettres à Lucilius, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'argent, mais c'est la peur de la mort. Donc voilà, il faut se libérer de cette crainte, mais il faut également se libérer d'un certain nombre de passions, comme l'envie, la jalousie, etc. Et ça, c'est une ascèse, c'est une pratique presque quotidienne qu'on
doit faire. Et pour réussir cela, à l'esprit doit notamment se préparer aux mots MAUX qui peuvent survenir, comme la pauvreté. C'est le sens de cette lettre que Sénèque écrit à son ami, justement Lucilius. Au reste, je me plais tellement à éprouver la fermeté de ton âme que, comme de grands hommes l'ont prescrit, à mon tour je te prescrirai d'avoir de temps à autre certains jours où, te bornant à la nourriture la plus modique et la plus commune, à un vêtement rude et grossier, tu puisses dire « Voilà donc ce qui me faisait peur ». Qu'au temps de la sécurité, l'âme se prépare aux crises difficiles, qu'elle s'aguerrisse contre les injures du sort au milieu même de ses faveurs. En pleine paix, sans ennemis devant soi, le soldat prend sa course, fiche des palissades et se fatigue de travaux superflus pour suffire un jour au nécessaire. Celui que tu ne veux pas voir trembler dans l'action, exerce-le avant l'action. Voilà comment ont fait les hommes qui, vivant en pauvre tous les mois de l'année, se réduisaient presque à la misère pour ne plus craindre ce dont ils auraient fait souvent l'apprentissage. Ne crois pas qu'ici je te conseille ces repas à la Timon, ni ces cabanes du pauvre, ni aucune de ces fantaisies raffinées dont la richesse amuse son ennui. Je veux pour toi un vrai grabat, un saillon, un pain dur et grossier. Soutiens ce régime 3 et 4 jours, quelquefois plus. N'en fais pas un jeu, mais une épreuve. Alors crois-moi, Lucilius, tu tressailliras de joie quand pour 2 ans tu seras rassasié. Tu verras que pour être tranquille sur l'avenir, on a nul besoin de la fortune, car elle nous doit le nécessaire même dans ses rigueurs. Ce n'est pas en soi une douce chose que l'eau claire et la bouillie ou un morceau de pain d'orge, mais c'est un plaisir suprême d'en pouvoir retirer encore du plaisir et de s'être restreint à ce que ne saurait nous ravir le plus inique destin.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Nous sommes toujours en compagnie de Sandrine Alexandre et de Juliette Drosse pour parler du rapport à l'argent de Sénèque et de ce qu'il nous enseigne à ce sujet. On vient d'entendre un extrait de la lettre 18 adressée à Lucilius. Qu'est-ce que vous inspire ce texte, Juliette Drosse ?
C'est un texte intéressant qui expose bien ce qu'était cet exercice, enfin les différentes facettes que pouvait prendre cet exercice qu'on appelait l'exercice, alors en latin on disait praemeditatio futurorum malorum, c'est-à-dire en fait préméditation, c'est-à-dire anticipation mentale de ce qu'on considère comme des malheurs qui en fait pour les stoïciens n'en sont pas, mais qui peuvent nous arriver. Par exemple, le deuil, la déchéance, la maladie, la souffrance et évidemment la mort. Alors Sénèque dit, on peut se préparer finalement à tous ces malheurs, enfin tels qu'on les appelle, qui n'en sont pas encore une fois, en vain. Par exemple, on peut s'être préparé à être malade et on sera en bonne santé toute sa vie. On peut s'être préparé à être pauvre et finalement on restera riche toute sa vie. En revanche, l'exercice le plus utile et qui est toujours qui nous servira toujours, c'est l'exercice de préparation à la mort. Mais donc cet exercice, en fait, ça désigne une sorte d'aguerrissement mental qui permet d'anticiper tout ce qui peut nous arriver pour être prêt le jour où il nous arrive, s'il nous arrive, à les affronter de manière sereine, voilà, sans flancher. Et parmi ces exercices, effectivement, il y en a un qui prend une forme vraiment pratique, qui est l'exercice de la pauvreté. Et c'est ce que Sénèque recommande à Lucilius, ce sont des sortes de stages de pauvreté, où il lui dit, voilà, entraîne-toi finalement à manger de la bouillie, de l'eau, à dormir à même le sol, tu te rendras compte que finalement, ce n'est pas si dur que ça, tu te rendras ainsi indépendant par rapport au don de la fortune et c'est ainsi que tu te rapprocheras de la sagesse.
Et alors est-ce que ce sont des exercices que Sénèque pratiquait lui-même, puisqu'on va en parler, mais il disposait d'une fortune absolument colossale, Juliette Drosse.
Alors on peut penser que Sénèque les pratiquait lui-même, alors on n'a pas me semble-t-il, de témoignages vraiment sur sa propre pratique. On sait qu'il pratiquait l'examen de conscience, en revanche, tous les soirs, en examinant ce qu'il avait fait. Mais c'est vrai qu'il conseille souvent ces exercices de pauvreté. Et c'est quelque chose aussi qui lui a été, c'est vrai, souvent reproché, parce qu'on dit, c'est bien de prôner la pauvreté ou de dire que la richesse est la source de tous les maux, quand on est soi-même l'un des hommes les plus riches de Rome. Mais il se défend de ces accusations, de manière assez cohérente, d'ailleurs, dans un de ses traités.
On va y venir, peut-être dire simplement que Marc Aurèle, au IIe siècle de notre ère, lui, s'exerçait vraiment à la pauvreté. Je crois qu'il dormait sur un matelas, même le sol, enfin, pas s'habituer au luxe.
Il avait choisi, assez jeune, effectivement, de vivre comme les philosophes, donc avec le manteau du philosophe, en dormant par terre, ce qui était, évidemment, ce qui pouvait poser problème pour un futur empereur. Et on a toute une correspondance entre Marc Aurèle et son maître de rhétorique, Fronton, qui, justement, revient là-dessus et qui lui dit, en même temps, il faut aussi que tu incarnes cette figure impériale et l'empereur ne peut pas dormir par terre. Mmh. Mais oui, Marc Aurèle pratiquait ces exercices.
S'exercer à la pauvreté ou plus largement pratiquer la sobriété, puisque Sandrine Alexandre, la richesse comporte un risque qui est celle de faire tomber dans le vice, d'où la nécessité de ces exercices.
Oui, c'est vrai. Donc déjà sur la question de l'exercice, donc Juliette en a évoqué un certain nombre, donc l'examen de conscience, etc. Mais c'était une pratique extrêmement importante pour les stoïciens. C'est peut-être ce que l'époque contemporaine aussi a gardé du stoïcisme. Hein. Donc il existe une quantité de types d'exercices. Le fait de regarder par exemple les choses d'un peu plus loin, d'en haut, de se rappeler, de considérer, d'anticiper justement les mots à venir. Donc cette dimension de l'exercice, elle est essentielle pour se faire à l'idée de la philosophie stoïcienne. Donc pour s'incorporer finalement le dogme. Et sur la question de la richesse, oui, ces stages de pauvreté fictifs sont extrêmement importants dans la mesure où être riche, avoir du bien, ça, c'est aussi l'occasion de se dire mais peut-être qu'un jour je vais le perdre, peut-être que la fortune va me l'ôter. Donc si on en reste à cette idée de possibilité de perte, on risque d'être extrêmement angoissé, parce que c'est quand même assez agréable de vivre une vie où nos besoins sont aisément comblés. Donc là, la question des stages de pauvreté fictifs joue son rôle, puisque grâce à cela, on va se rendre compte qu'on est tout à fait capable de supporter une situation un peu rude, un peu dure. Ah, j'en suis donc capable, donc je ne crains plus. Donc ce qui m'inquiétait ne me fait plus peur. C'est un petit peu ce que dit Épictète hein, dans un texte où il nous parle des croque-mitaines, en disant la mort, la pauvreté, et notamment la pauvreté, ce sont des croque-mitaines, ce sont des monstres qui ne font peur qu'aux enfants, des faux monstres. Retourne le masque et tu verras que ce ne sont pas des monstres. Donc j'ai l'impression que ces stages de pauvreté fictifs sont une manière pour celui qui est qui a le malheur d'être riche, si on veut, de retourner le masque et finalement de se libérer de cette crainte.
Mais ce qui fragilise peut-être la position de Sénèque, c'est donc qu'il était lui-même l'un des hommes les plus riches de son temps. Qu'est-ce qu'on sait exactement de sa fortune, Juliette Drosse ?
Oui, c'était en effet l'un des hommes les plus riches de son temps. Il était lui-même très riche et il s'était beaucoup enrichi depuis le début du règne de Néron.
Il avait déjà une fortune familiale qu'il a largement grossi.
Voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose qui lui était reproché, on lui reprochait de dire et de ne pas faire. Et il a même été, on lui a même intenté, un de ses ennemis, un de ses adversaires, lui a même intenté un procès pour, lui reprochant de faire de l'argent sale, de détourner des testaments. Et Sénèque écrit justement un traité qui est assez intéressant sur cette question du rapport à l'argent, qui s'appelle le traité de la vie heureuse, dans lequel c'est un traité assez étonnant parce que c'est un traité qui commence comme la plupart des traités de Sénèque par un développement classique sur le thème du traité, c'est-à-dire en l'occurrence la vie heureuse. Qu'est-ce que c'est que le bonheur d'un point de vue stoïcien? Et au milieu du traité, il change complètement de ton pour dire mais d'ailleurs il y a des gens qui accusent les philosophes de ne pas vivre comme ils le prônent et d'être riches alors qu'ils prônent la pauvreté, etc. Ces gens-là n'ont rien compris au stoïcisme, et c'est là qu'il aborde la question de la richesse, et on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est vrai que la richesse, dit Sénèque, peut nous éloigner de la sagesse parce que elle nous met dans un état constant de crainte. On a peur de perdre cette richesse. Mais du point de vue du sage et d'un point de vue strictement stoïcien, la richesse comme la pauvreté sont des indifférents. Mais s'il peut choisir, le sage choisira généralement de préférence la richesse plutôt que la pauvreté parce que c'est dans la richesse qu'il pourra déployer un certain nombre de vertus, alors que
Sénèque, il sera plus soumis à des tentations dans la
voilà,
richesse.
Voilà, et donc il va mettre à l'épreuve son sens de la tempérance. Il va pouvoir déployer sa libéralité, sa magnanimité, sa générosité, alors que Sénèque dit dans la pauvreté, finalement, il y a une seule vertu qu'on peut développer, c'est celle de ne pas se laisser fléchir, de ne pas se laisser abattre. Donc, d'une certaine manière, la richesse, ça peut être un moyen aussi de progresser. Le problème, c'est que pour faire un bon usage, la richesse et la pauvreté sont des indifférents, mais il faut faire bon usage de la richesse, et pour faire un bon usage de la richesse, il faut être déjà relativement avancé sur le chemin philosophique.
Oui, vous avez évoqué son ennemi, c'est Suilius, qui l'accuse publiquement d'hypocrisie, en disant que notamment il pratiquait le prêt à intérêt, et c'est vrai qu'on a du mal à se représenter en comment il peut y avoir cette volonté d'accroître sa richesse, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement accueillir la richesse qui vous vient, c'est quelque chose de volontaire. Ça, ce n'est pas en contradiction avec le stoïcisme, Juliette Drosse ?
Alors, si, sans doute. Et à cela, Sénèque répondrait. C'est d'ailleurs une des réponses qu'il fait dans le traité La vie heureuse. Le premier argument, il dit, voilà, tu me reproches de ne pas être sage. Effectivement, je ne suis pas sage, je suis modestement ce qu'on appelait dans l'Antiquité un progressant, c'est-à-dire je suis en route vers la sagesse, donc ne me reproche pas de ne pas me conduire comme un sage. Mais effectivement, clairement, le fait de rechercher toujours plus, c'est un comportement qui n'est pas stoïcien.
Et bien plus tard, au XVIe siècle, Montaigne a pris la défense de Sénèque. Écoutez.
À propos de Sénèque, je dirais ceci. Empruntant les reproches qui lui sont faits à l'historien Dion, dont je récuse absolument le témoignage. Cet auteur, en effet, varie dans ses jugements, qualifiant tantôt Sénèque de très sage, et tantôt d'ennemi mortel des vices de Néron. Puis, le décrivant ailleurs comme avare, usurier, ambitieux, mou, voluptueux, et comme quelqu'un qui se fait passer pour philosophe sans en avoir les qualités. Mais la vertu de Sénèque se montre si vive et si forte dans ses écrits, son opposition à ses allégations est si claire, comme à propos de celle qui concerne sa richesse et ses dépenses excessives, que je ne peux en croire là-dessus aucun témoignage contraire. Et d'ailleurs, il est bien plus raisonnable de croire en ces matières les historiens romains que les Grecs et les étrangers.
Voilà un extrait des essais de Montaigne. Il y a eu beaucoup de débats, de discussions au XVIe siècle, mais aussi au XVIIe, au XVIIIe siècle, Juliette Drosse, autour de cette apparente contradiction entre la fortune de Sénèque et son message.
Oui, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, et qui est
quand on pense aujourd'hui à Sénèque, c'est souvent une question d'ailleurs qui revient, cet apparent paradoxe ou cette apparente contradiction entre ce qu'il écrit dans ses livres et les témoignages qu'on peut avoir sur sa vie. Néanmoins, en tout cas, c'est vrai que quand on lit son œuvre, alors ce n'est pas rectiligne, c'est-à-dire que c'est pas systématiquement le même propos, mais il y a quand même une profonde cohérence, et notamment par rapport à cette question de l'argent, il me semble qu'il y a vraiment une cohérence de Sénèque là-dessus, avec voilà le point de vue du sage et le point de vue du progressant, les étapes qui vont finalement faire que à tel moment la richesse va plutôt être impréférable et à tel autre moment ça va être plutôt la pauvreté, mais voilà, tout ça s'inscrit quand même dans la philosophie stoïcienne, et la pensée de Sénèque voilà est assez cohérente quand même sur ce point. Alors après, est-ce que lui-même a vraiment appliqué dans sa vie ce qu'il prônait, la question reste ouverte, mais il y a une réelle réflexion et qui est extrêmement intéressante sur ces sujets-là.
Oui, l'une des questions qui se pose pour clôturer ce sujet, c'est celle du mode de vie. Est-ce qu'il avait un mode de vie très fastueux, ou est-ce qu'il tentait de vivre dans une certaine sobriété, Juliette Drost? Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet?
Alors, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que c'était un des hommes les plus riches de Rome, donc il avait un mode de vie, et que c'était un mode de vie assez fastueux, mais assez fastueux. Enfin, en tout cas, sans doute vivait-il dans le luxe, mais en tout cas, dans ses ouvrages, que ce soit dans les lettres à Lucilius, dans ses différents traités, il invite à prendre de la distance par rapport à cela et à ne pas vivre dans un luxe excessif et dans la tranquillité de l'âme. Il termine justement sa réflexion sur la richesse en disant: en matière d'argent, en matière de richesse, le mieux est de ne pas sombrer dans la pauvreté, mais de ne pas trop s'en éloigner non plus, c'est-à-dire de trouver finalement un juste intermédiaire qui permettra de ne pas être esclave de l'argent et qui permettra en même temps de développer les vertus que nous permet la richesse.
Sandrine Alexandre.
Oui, donc là c'est vraiment la question de l'usage. Hein. Donc Thomas Benatouille a vraiment insisté sur cette notion d'usage dans le stoïcisme, et là ça se voit absolument. De la même manière, la situation finalement de Sénèque, qui peut nous sembler de l'extérieur contradictoire ou paradoxale, elle répondrait tout à fait à la théorie des rôles, à l'idée que chacun reçoit une place par la fortune et qu'il nous appartient de jouer correctement notre rôle. Et donc si nous sommes pauvres, de nous comporter en pauvres, donc pas donner de générosité, ne pas être généreux, ou en tout cas pas à l'excès, et quand on est riche, de pratiquer justement cette libéralité. Bon, il y aurait justement, ça se contredit peut-être du coup le rapport que les stoïciens auraient avec les biens si on prend un autre point de vue, le point de vue de l'appropriation à soi, qui justement serait la mesure du besoin, mais du point de vue de la théorie des rôles, ça fonctionnerait tout à fait.
L'argent ne fait pas le bonheur, nous dit Sénèque, c'est aussi le message de Johnny Cash dans Satisfied Mind, et c'est tout de suite sur France Culture.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way? But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime, but I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind.
A Satisfied Man, Johnny Cash sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, l'économie selon Sénèque, c'est notre sujet aujourd'hui. Les spécialistes de philosophie ancienne, Juliette Drost et Sandrine Alexandre, sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Somaya Dabesh et mise en onde par Alex Tang.
But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way? But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.
Alors on l'a compris, pour Sénèque, la richesse n'est pas nécessaire pour accéder au bonheur, mais elle est impréférable, car il faut distinguer la condition, par exemple le fait d'être riche, et l'usage que l'on fait de cette richesse, Sandrine Alexandre.
Oui, tout à fait. Donc que ce soit la richesse, la pauvreté, ou n'importe quelle autre situation qui nous advient, la maladie, la santé, il s'agit toujours d'en user. Donc les éléments ou les événements qui nous adviennent sont considérés comme des matières, en quelque sorte, dont il nous faut toujours faire bon usage, c'est-à-dire deux choses. Les considérer déjà comme des indifférents, préférable ou pas, ça n'est pas la question, mais en tout cas déjà comme des indifférents, et ensuite réussir à s'en accommoder. Si c'est impréférable, tant mieux pour nous. Si ça n'est pas impréférable, nous allons malgré tout nous en accommoder, parce qu'on va comprendre que c'est ce que le destin quelque part veut pour nous, en tout cas que c'est ce que le sort veut pour nous, de la même manière que le pied n'est pas fait pour marcher dans la boue spécifiquement, mais si jamais il lui arrive de rencontrer de la boue, il marchera malgré tout dans la boue.
Et alors, comment faire bon usage de sa fortune, selon Sénèque? C'est la réflexion qu'il mène dans son ouvrage Des bienfaits, Sandrine Alexandre, c'est ça?
Oui, il y a plusieurs endroits dans lesquels il va nous parler effectivement de la richesse. Donc on a déjà abordé la question des lettres à Lucilius, où il nous dit le mieux serait d'essayer de vivre sobrement, donc quelque part en pauvre, voire, et c'est ce qu'on disait également tout à l'heure, de faire un certain nombre de petits stages de pauvreté fictifs pour s'en accommoder. Mais
il y a aussi ce qu'il appelle la libéralité, c'est ça qu'il explore dans Des bienfaits.
Oui, tout à fait. Donc, cette question de la libéralité, donc de la vertu de générosité, renvoie à deux choses. Donc, il y a cette vertu de générosité et aussi une institution qui, à Rome, est extrêmement importante, qui est la bienfaisance, la beneficentia, qui implique que les personnages les plus riches, les plus aisés, vont avoir un certain nombre de clients, donc des patronus, les patrons, les personnes aisées vont avoir un certain nombre de clients ou d'amis. Donc, le terme est beaucoup plus large que le nôtre, à qui ils vont faire des cadeaux, envers qui ils vont exercer leur largesse, et en retour, ces clients vont leur devoir une certaine obligation, vont entrer avec eux dans un rapport d'obligation. Et ce rapport d'obligation, il est généralement, comme le dit le terme, quelque part obligatoire, mais cette obligation est spontanée. C'est ce que le bienfait, celui qui reçoit le bienfait, est censé s'obliger à faire. Donc c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Donc cette reconnaissance, c'est un passage obligé, et Sénèque commence son traité, c'est le point majeur, à mon avis, du traité des bienfaits, cette ingratitude qui fait dysfonctionner la bienfaisance. Donc comment faire pour que cette ingratitude n'ait plus lieu? Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Sénèque ne va pas dire « Ah là là, nous sommes entourés d'ingrats », il va nous dire « C'est peut-être parce qu'on donne mal ». Donc il va développer toute une éthique du don, et donc c'est un traité à l'usage de ses pairs, donc c'est un traité à l'usage des riches.
Et bien justement, écoutons un extrait de ce traité des bienfaits. Donc, si c'est l'intérêt et un vil calcul qui me rendent généreux, si je ne suis jamais serviable que pour obtenir en échange un service, je ne ferai pas de bien à celui qui part pour des pays situés sous d'autres cieux, éloignés du mien, qui s'absente pour toujours. Je ne donnerai pas à celui dont la santé est compromise, au point qu'il ne lui reste aucun espoir de guérison. Je ne donnerai pas, si moi-même je sens décliner mes forces, car je n'ai plus le temps de rentrer dans mes avances. Et pourtant, ceci pour te prouver que la bienfaisance est une pratique désirable en soi. L'étranger qui tout à l'heure s'en est venu atterrir dans notre port et qui doit tout de suite repartir, reçoit notre assistance. À l'inconnu qui a fait naufrage, nous donnons, pour qu'il soit rapatrié, un navire tout équipé. Il part, connaissant à peine l'auteur de son salut.
Comme il ne doit jamais plus revenir à portée de nos regards, il transfère sa dette aux dieux mêmes et il leur demande, dans sa prière, de reconnaître à sa place notre bienfait. En attendant, nous trouvons du charme au sentiment d'avoir fait un peu de bien dont nous ne recueillerons pas le fruit. Et lorsque nous sommes arrivés au terme de la vie, que nous réglons nos dispositions testamentaires, n'est-il pas vrai que nous répartissons des bienfaits dont il ne nous reviendra aucun profit ? Combien d'heures l'on y passe ? Que de temps on discute, seul avec soi-même, pour savoir combien donner et à qui ? Qu'importe en vérité de savoir à qui l'on veut donner, puisqu'il ne nous en reviendra rien, en aucun cas ? Pourtant, jamais nous ne nous donnons plus méticuleusement, jamais nos choix ne sont soumis à un contrôle plus rigoureux qu'à l'heure où, l'intérêt n'existant plus, seule l'idée du bien se dresse devant notre regard. Ce qu'il faut retenir de cette lecture, Sandrine Alexandre, c'est que selon Sénèque, il faut donc donner sans rien attendre en retour. En cela, je crois qu'il s'inspire de l'Odyssée dans laquelle Ulysse se voit offrir un navire sans aucune contrepartie.
Oui, tout à fait. Et le texte me semble vraiment très intéressant dans la mesure où il permet de mettre en tension finalement deux aspects de la pratique de Sénèque, ou deux choix entre lesquels il est pris, à savoir cette bienfaisance désintéressée. Donc on pourrait même parler de don ici, hein, puisque la reconnaissance ne va pas se faire à l'égard de celui qui a donné le bienfait, mais à l'égard des dieux, par exemple. Et donc on va distinguer peut-être les trois temps du bienfait, qui constituent finalement les trois premiers livres du traité des bienfaits, le fait de donner, le fait de recevoir et le fait de rendre. Donc là, ces trois temps sont relativement dissociés, puisque on les prend pour eux-mêmes. Et donc dans chacun de ces trois temps, il va falloir être le meilleur possible, donc donner de la meilleure façon possible, sans rien attendre en retour, recevoir de la meilleure façon possible, même si on a reçu en même temps une injure, en même temps que le bienfait, et rendre de la meilleure façon possible.
Mais si on attend en retour de la reconnaissance ou du soutien politique, hein, ce qui constitue le clientélisme, est-ce que c'est en accord avec le stoïcisme, Sandrine?
Et donc on a cette tension effectivement entre cette première manière, c'est une tension mais pas une incohérence. Donc cette première manière de concevoir les choses, qui est celle du progressant en fait, qui vise à devenir sage, et de l'autre côté, cette situation sociale, hein, cette institution sociale dans laquelle les trois temps doivent absolument coïncider l'un avec l'autre et s'appeler l'un l'autre. Donc Sénèque est pris entre ces deux éléments-là, à la fois cette perspective très philosophique, très morale, très j'essaye de m'améliorer, et une perspective qui est de son ressort, puisqu'il est un puissant, et puisqu'il doit jouer son rôle de puissant, de maintenir une certaine institution qui fait d'ailleurs partie de l'ancien monde, hein, de ce que certains historiens appellent l'ancien monde, c'est-à-dire une continuation finalement des familles, des notables, des familles fortunées, mais une fortune qui s'appuie malgré tout non seulement sur l'argent, mais qui s'appuie sur la propriété foncière, et pas seulement sur le fait d'avoir gagné beaucoup d'argent dans une opération ou par hasard.
Donc il n'y a pas du tout de réflexion autour d'une possible fin du clientélisme chez Sénèque, Juliette Drosse?
Non, il n'y a pas de réflexion sur une possible fin du clientélisme, mais ce qui est assez remarquable dans le traité de Sénèque des bienfaits, c'est qu'il part d'une morale sociale et qu'il essaye de la fonder dans la philosophie, lui donner un fondement éthique avec l'idée, comme le disait Sandrine, que le bienfait, au sens, au vrai sens, au sens plein du terme, finalement est moins dans la manifestation matérielle de ce que je donne, par exemple je donne une maison, je donne un terrain, etc., que dans l'état d'esprit du bienfaiteur lorsqu'il donne. Et le bienfaiteur, lorsqu'il donne, dit Sénèque, doit prendre en compte l'intérêt de celui à qui il donne, et non pas son propre intérêt, c'est-à-dire ne pas attendre de retour de son bienfait. Mmh.
Ce qui est intéressant chez Sénèque, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de valeur entre le riche et le pauvre, ni entre l'homme libre et l'esclave. Tous ont la même dignité, Sandrine Alexandre.
Oui, ça c'est un des aspects extrêmement importants du stoïcisme, hein, même si on en trouve quelques éléments également dans les philosophies précédentes. Mais c'est vraiment l'idée que nous sommes tous, parce que nous sommes des êtres doués de raison, tous des anthropoi, hein, donc des êtres humains, qui devons nous considérer comme des frères. Donc le stoïcisme a vraiment cette idée humaniste, qu'on qualifierait aujourd'hui d'humaniste et qui est dans le texte, hein, c'est vraiment la question de l'humanitas qu'on trouve déjà chez Cicéron, qu'on retrouve chez Sénèque à propos notamment des esclaves. Mais la réflexion demeure quand même très théorique. Hein, dans la lettre 47, justement sur les esclaves, il ne s'agit pas de renverser les positions ou de considérer que certaines places sont injustes ou qu'il faudrait modifier dans la perspective d'une justice sociale. C'est complètement anachronique, l'idée de justice sociale. Donc là, les positions sont relativement fixes et il s'agit de s'accommoder de la position dans laquelle nous a placé la fortune.
Mais le simple fait de considérer le maître et l'esclave comme des égaux, puisque tous deux sont doués d'entendement, ça c'est déjà une vision qui était très peu répandue à l'époque.
En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez remarquable dans ces lettres de Sénèque, c'est la considération, enfin c'est cette lettre 47, c'est effectivement sur les esclaves, l'idée que je suis riche, je suis un membre de l'élite et toi tu es un esclave, mais nous sommes finalement tous deux des frères en ce que nous sommes des humains, nous sommes doués de raison, et donc c'est une lettre que Sénèque écrit à Lucilius en lui disant considère tes esclaves comme toi-même et ne te fusque pas qu'ils mangent avec toi, etc. Mais effectivement, comme le disait Sandrine, il n'y a pas du tout dans cette considération-là l'idée qu'il faudrait remettre les choses en question et remettre en question la hiérarchie sociale, pas du tout. Mais c'est vraiment la prise en compte de l'esclave comme un alter ego au sens où l'esclave comme moi-même partageons la même raison.
Et quel est le regard de Sénèque sur la propriété ? Pour lui, il y a une propriété collective et une propriété privée, Sandrine Alexandre ?
La question est complexe. Dans le stoïcisme, de façon générale, hein, donc on a à mon avis plusieurs voies d'entrée possibles dans cette question de la propriété. Une première voie d'entrée possible, c'est une espèce de fable historique qu'on trouve d'ailleurs dans lettre 90, fin de l'âge d'or, et donc ça concerne tous les êtres humains, fin de l'âge d'or, au moment où on retrouvera ça chez Rousseau, hein, où plusieurs groupes d'êtres humains se sont dit « Ah, ben prenons quelque chose pour nous ». Et là, Sénèque dit « C'est le début de la fin », puisque pour avoir voulu rompre avec le commun, eh bien, les gens se sont en réalité appauvris. Ils avaient le droit d'user de tout, et maintenant, ils ne peuvent user que d'une toute petite partie. Donc, à partir de là, deux voies s'offrent aux stoïciens. Hein, donc, le monde est à l'origine commun pour eux, et une fois que effectivement on sort de cet âge d'or, comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on légitime la propriété privée ? Alors les stoïciens la légitiment, hein, ils la légitiment de deux façons. Ou bien ils la légitiment avec cette réflexion qu'ils mènent sur l'appropriation à soi, c'est-à-dire le petit être humain, comme n'importe quel autre animal d'ailleurs, s'approprie à lui-même, il va se nourrir, et puis il va avoir des petits, puis il va s'approprier à ses petits, et en fait il va s'approprier aussi des choses pour se nourrir. Donc dans cette perspective-là, la mesure de la propriété, c'est le besoin, la satisfaction du besoin, et donc c'est Antipater qui nous dit donc, puisque c'est le besoin, c'est la mesure, alors il faut répartir les richesses. Et il a inspiré, de fait, une réforme, une tentative en tout cas, de réforme, celle des Gracques, hein, au IIe siècle avant notre ère, qui est une réforme tout à fait sociale. Hein, donc ça a échoué.
Qui visait vraiment à rééquilibrer les possessions foncières.
Exactement. Et à l'inverse, on a une autre position qui consiste à dire, et que position que partage Cicéron, et que dans ce qu'on lit peu l'hydre de Sénèque partagerait, à mon avis, Sénèque, les positions sont ce qu'elles sont. Ce sont des hasards de fortune qui ont fait qu'un tel est riche, un tel est pauvre, un tel est libre, un tel est esclave. Et donc, ça, c'est ce que va devoir préserver la loi. Donc, la loi qui va protéger, finalement, l'existant et rendre possible l'enrichissement encore plus important de ceux qui sont déjà riches.
Et est-ce qu'il n'y a pas cette idée que la propriété privée est justifiée par le fait que telles personnes ont un meilleur usage de la terre que d'autres ?
Ça, ce serait dans l'absolu, effectivement. Et ça s'inscrirait, effectivement, dans cette réflexion qu'on menait tout à l'heure sur l'usage, en disant que le véritable propriétaire, c'est celui qui use bien. Et quelle est la seule personne qui use bien de ce qu'il a ? C'est le sage. D'où le renversement qui consiste à dire que seul, finalement, le sage est riche. Il est seul riche parce qu'il ne considère lui-même qu'il ne manque de rien, qu'il ne souffre de rien, et qu'il est capable de se contenter simplement de satisfaire ce qui lui convient.
On a parlé tout à l'heure l'heure de la contradiction ou de l'apparente contradiction entre la richesse de Sénèque et le fait qu'il prône un détachement vis-à-vis de l'argent. Il y a peut-être une autre contradiction chez lui dans le fait qu'il prône la tranquillité de l'âme, alors même qu'il a passé l'essentiel de sa vie, Juliette Dross, dans l'agitation de la cour, dans les intrigues politiques.
Alors ça, c'est une question qui est assez centrale et qui dans la pensée de Sénèque, c'est la question du rapport à la vie publique, comment finalement se comporter, comment être le voilà de la manière la plus philosophique qui soit. Alors tout cela, ça, peut-être que pour comprendre aussi la position de Sénèque, il faut rappeler que dans le stoïcisme, la doctrine des stoïciens en matière de participation à la vie de la cité, elle tient en une phrase de Chrysippe qui est « le sage participera aux affaires publiques si rien ne l'en empêche, ou sauf empêchement. Donc, a priori, pourquoi ? Parce que, certes, les cités sont des lieux où on peut côtoyer les vices, la corruption, néanmoins, ce sont les lieux où s'exprime la sociabilité humaine, et donc il est du devoir du sage d'essayer d'améliorer les cités. Donc, par principe, le sage doit, et celui qui essaye de lui ressembler, donc le philosophe, doit s'impliquer dans la vie publique. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, Sénèque, quand il est conseiller de Néron, lorsqu'il est aux affaires, il est parfaitement en cohérence, on va dire, avec la doctrine stoïcienne. Néanmoins, c'est vrai qu'il a aussi connu ses traversées du désert et qu'à la fin de sa vie, il s'est retiré à l'écart des affaires. Alors, il était aussi en disgrâce, donc c'est une retraite qui est, disons, semi-volontaire. Il se retire, mais Néron l'invite aussi à se retirer. Et il va développer toute une réflexion, justement, sur le rôle du philosophe. Finalement, si le philosophe ne peut plus s'impliquer dans la cité parce que cette cité est trop corrompue, parce qu'on ne l'écoute plus, ou parce qu'il n'en est plus capable, il peut être malade, il est trop faible, etc., il va se retirer, et c'est ce que permet la clause d'exception stoïcienne, finalement, là, quelque chose l'en empêche, mais dans ce cas, il va falloir qu'il trouve le moyen de se rendre utile à ses concitoyens, et il va se rendre utile non pas en participant à la vie publique, c'est-à-dire aux affaires politiques, mais d'une autre manière.
En enseignant la philosophie.
Par exemple, voilà, en écrivant, en faisant de la recherche physique sur l'univers, en écrivant, en enseignant, en transmettant ses connaissances pour finalement être utile à ses concitoyens, mais même, donc à ses concitoyens au sens restreint, mais même de manière plus large, à l'ensemble de ses concitoyens au sens stoïcien du terme, c'est-à-dire à l'humanité, par la transmission des connaissances.
Sur cette question de s'impliquer ou non dans le négocium, donc dans les affaires, il y a aussi cette idée que le travail philosophique suppose l'osium, Sandrine Alexandre, c'est-à-dire le temps libre.
Oui, et d'ailleurs Sénèque, dans une de ses lettres, les philosophes n'enseignent pas à agir contre les lois, puisque les lois sont celles qui permettent justement le loisir. Et là, c'est un petit peu un passage obligé malgré tout, hein, même si c'est une lettre à Lucilius, il flatte un petit peu Néron, hein, donc qui garantirait cette paix. Alors, vrai ou faux, quelle est la part de sa sincérité là-dedans. Mais effectivement, l'otium est quelque chose, en tout cas Sénèque insiste beaucoup là-dessus, d'important pour le travail philosophique, c'est-à-dire que il va avoir du temps, hein, et le temps est extrêmement important, la lettre 1 le montre, hein, un temps dont il va falloir être comptable, qu'il ne va pas falloir disperser, et donc cet otium, c'est un usage du temps, on reparle encore de la question de l'usage, hein. L'otium, c'est le bon usage du temps libre que nous avons à notre disposition et qui était déjà vanté chez les Grecs.
Vous avez évoqué le fait que Sénèque se retire de la vie politique ou qu'il tombe en disgrâce. 2 ans après ce retrait, en 64 de notre ère, donc Rome est ravagée par un terrible incendie, une catastrophe attribuée à Néron, comme on l'entend dans cet extrait du film de Mervyn Leroy de 1951, Covadis.
Ils crient quelque chose, que sont-ils en train de crier ?
Ils t'ont gratifié d'un nouveau titre, divinité, incendiaire.
J'ai fait demander des renforts, j'espère qu'ils arriveront à temps. À ta place, je parlerai au peuple, César, pourquoi ne pas lui faire des promesses ?
Je ne recherche pas les faveurs, c'est moi qui les confère, va leur parler en mon nom !
J'attendrai que les renforts arrivent, je ferai parler le fait. À présent, ils me lapideraient.
Est-il plus noble cause pour laquelle mourir ?
Sénèque, qu'est-ce que tu me conseilles ?
Le peuple est une bête sauvage, et avec un animal, on ne peut pas raisonner.
Voilà, alors en réalité, on l'a compris, hein, Sénèque ne se trouve pas auprès de Néron cette nuit-là, mais peu de temps après, il est accusé par l'empereur d'avoir participé à une tentative d'assassinat, et il sera condamné à se suicider, Juliette Dross.
Oui, c'est la découverte en 65, disons que les 5 premières années du règne de Néron sont passées à la postérité comme un mini âge d'or où on retrouvait une certaine sérénité après les règnes assez troublés de Claude, enfin de Caligula puis de Claude. Mais disons que cette sérénité, ce voilà, va se fragiliser, et Néron s'éloigne de plus en plus du Sénat, il s'éloigne aussi de ses conseillers, et donc petit à petit, effectivement, Sénèque va prendre ses distances par rapport à Néron, et Néron par rapport à Sénèque, et donc il tombe en disgrâce, et il s'éloigne de la cour à partir de 62, et en 65 est découverte donc une conjuration, qu'on appelle la conjuration de Pison, qui était un sénateur et qui visait à renverser Néron, à l'assassiner, et alors cette conjuration, elle est assez hétéroclite, donc beaucoup de gens y participent, et donc ça, tout cela remonte, enfin il y a des fuites, ça remonte aux oreilles de Néron, et donc il y a toute une série d'arrestations avec des délations, et Sénèque est dénoncé. Alors est-ce qu'il a participé à cette conjuration? A priori non, en tout cas les historiens disent que non, Tacite dit que Sénèque n'a pas participé à la conjuration, en tout cas qu'il y ait participé ou non, ce qui est sûr c'est que Néron prend prétexte de cette conjuration pour accuser Sénèque et pour le contraindre au suicide, ce qui était une mort que l'on pouvait réserver aux membres de l'élite politique, voilà. Pour les faire exécuter on pouvait les condamner au suicide.
Et cette conjuration que vous évoquez, elle est en lien avec le fait que la nécessité de reconstruire Rome après le grand incendie de 64, donc a entraîné des confiscations auprès de grands propriétaires, que tout ça suscite beaucoup de mécontentement, Juliette Dross.
Oui, il y a eu beaucoup de mécontentement suite à cet incendie, mais de manière plus générale, c'était aussi le Sénat qui était face à un empereur finalement le consultait de moins en moins et le respectait de moins en moins. Donc les sénateurs craignaient finalement que cet empereur devienne incontrôlable, ce qu'il avait commencé ce qu'il l'était déjà devenu un petit peu. Donc il y a cette prise de conscience et cette décision de mettre fin à ce règne qui devient un peu chaotique.
Alors on a beaucoup parlé depuis le début de cette émission de ce que Sénèque nous enseigne dans ce rapport à l'argent, à la richesse, dans la nécessité de mépriser non seulement le superflu mais aussi le nécessaire. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la philosophie stoïcienne de l'argent? Elle est souvent détournée, Sandrine Alexandre.
De la philosophie stoïcienne de l'argent, je ne sais pas. Mais par contre, le stoïcisme est devenu une philosophie complètement à la mode. Donc c'est un petit peu la philosophie à laquelle on pense quand notamment on parle de management, de coaching. Donc c'est effectivement l'héritage finalement qui nous reste des stoïciens, notamment des stoïciens romains, y compris dans les thérapies comportementales et cognitives. Donc tout un ensemble de pratiques très associées à notre fonctionnement contemporain néolibéral.
Quelle forme est-ce que cela prend? Quels sont les messages qui
les
sont
messages,
envoyés?
Vous avez été licencié, mais rebondissez. Vous ne mettez pas forcément en question les pratiques de licenciement.
Ce n'est qu'une question de volonté,
voilà,
finalement.
C'est une question de volonté.
De
donc,
quel regard vous posez sur les choses.
Exactement. Donc, hyper-responsabilisation et, quelque part, devenir un petit peu, pour reprendre la formule de Foucault, l'entrepreneur de soi-même. Donc, on a ces usages-là du stoïcisme, y compris via le biais de Foucault, qui parlait d'invention de soi, etc. Donc ces éléments-là ont été repris et c'est aujourd'hui une postérité du stoïcisme. Peut-être peut-on en envisager d'autres et s'intéresser, du coup je rebondis sur la manière dont vous avez formulé la question, sur qu'est-ce qui nous reste de la philosophie, donc de la valeur aussi des stoïciens. Et il me semble que les stoïciens ont utilisé un mot qui est axia en grec et qui est une autre pensée de la valeur par rapport à la pensée de ce que les Grecs appelaient la galma, qui était le précieux. Donc, avec l'axia, avec leur pensée de la valeur, ils essayent, ces stoïciens, de lutter contre les prestiges, finalement, des objets, contre le fait que ces objets nous ravissent et nous réduisent, finalement, en esclavage. Donc, contre cette pensée du précieux, de la galma, les stoïciens développent et théorisent une pensée de la valeur qui est comptable et qui est mesurée par rapport, notamment, aux besoins et qui s'inscrit toujours dans un échange du juste et, on pourrait même dire, du juste prix. Donc, peut-être peut-on aussi se rapporter aux stoïciens de cette autre manière-là.
Et puis Sénèque nous permet peut-être aussi de mieux comprendre les dérives contemporaines de l'accumulation, Juliette Dross.
Alors oui, comme le disait Sandrine, il y a beaucoup de pratiques finalement du stoïcisme qui sont très à la mode aujourd'hui, et notamment sur ce rapport au bien matériel. Oui, je trouve que ce que nous dit Sénèque, c'est que l'argent n'est pas un mal, voilà, c'est ni un mal ni un bien, c'est un indifférent, mais que tout est question d'usage, et l'autre message de Sénèque, en effet, c'est celui du détachement, c'est-à-dire considérer que ce sont des choses qui nous nous ont été donnés, mais qui ne nous appartiennent pas et qu'on peut nous retirer du jour au lendemain. Et il faut garder cela en tête pour ne pas être complètement déstabilisé si on perd tout. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se rendre autonome, indépendant par rapport à ses biens extérieurs et d'être dans une forme de mesure et de rationalisation de la possession.
Il y a un film consacré à Sénèque avec John Malkovich qui va sortir, John Malkovich dans le rôle titre, il sortira bientôt sur les écrans. Qu'est-ce que les spécialistes de philosophie ancienne que vous êtes ont à dire sur cette mode du stoïcisme? Comment expliquer un tel succès aujourd'hui encore, Sandrine Alexandre?
C'est un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est l'idéologie à la mode, c'est l'idéologie néolibérale. Ça contribue en tout cas à fonder et à relayer cette idéologie-là.
On ne peut pas y voir aussi un désir de sagesse.
Oui, mais la sagesse, c'est le calme et permet aussi beaucoup permet vraiment d'être productif. Donc, il y a ce côté-là qui peut être aussi très dangereux parce que ça s'appuie sur une simplification extrême du stoïcisme. On ne retient que quelques aspects. On perd complètement en vue l'ancrage cosmique aussi du stoïcisme. Aujourd'hui, si on parle d'une économie, on ne peut pas penser indépendamment de la question de l'environnement. Et les stoïciens ne pourraient pas être indifférents à ce que nous faisons subir à l'environnement.
Et donc, pour bien comprendre, sans doute faut-il revenir au texte, Juliette Dross?
Oui, c'est un point fondamental. C'est-à-dire que pour bien comprendre les textes anciens et pour ne pas prendre seulement un petit bout qui nous intéresse, effectivement, il faut revenir à la source.
Sachant que la langue est très accessible, la langue de Sénèque.
Sachant que Sénèque a écrit en latin, ce qui peut sembler une évidence aujourd'hui, mais ce qui ne l'était pas. Il a choisi d'écrire en latin plutôt qu'en grec. Son œuvre a été très bien transmise et que c'est une œuvre qui est très accessible.
Merci beaucoup, Sandrine Alexandre et Juliette Dross, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Alors, pour vous, Juliette Dross, c'est Le philosophe dans la cité, Sénèque et l'Ossium philosophique aux éditions Brépol. Et je rappelle également que vous avez traduit La tranquillité de l'âme de Sénèque, et Sandrine Alexandre, La philosophie du tir à l'arc, essai sur la conception stoïcienne de la valeur. C'est le titre de votre ouvrage paru cette année aux éditions de l'ENS. Un grand merci à toutes les deux. C'était donc le dernier épisode de notre série sur l'économie selon les philosophes de l'Antiquité. Je rappelle que ce sont des émissions qui sont à retrouver en podcast, que vous pouvez retrouver également sur franceculture.fr, des émissions consacrées à Platon et Aristote, des passionnantes émissions que je vous invite donc à retrouver sur franceculture.fr. We'll be right back. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci d'avoir été avec nous. On se quitte avec le quatuor de Los Angeles, Death Valley Girls, et ce titre What Are the Odds, extrait de leur nouvel album Islands in the Sky. Demain, de quoi les licenciements en série dans le secteur de la tech sont-ils le nom? Nous en parlerons avec Olivier Alexandre, Asma Mala et Capucine Cousin. D'ici là, je l'ai dit, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.